France Culture. Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, émission préparée avec Mélanie Chalandon, Barthélémy Gaillard, Fanny Richer, Sacha Mattei et Loïc Antoine, réalisée par Margot Page et Hélène Trigueros. À la technique ce matin, c'est Dalia. Le 9 décembre 1905, la France adoptait un régime laïque avec la loi de séparation des églises et de l'État, un système considéré comme unique au monde, mais plusieurs pays ont choisi d'autres formes de séparation. État et religion, les voies de la laïcité. Nous parlerons demain de l'Irlande où l'église est priée de céder du terrain. Mercredi du Brésil, l'État sous pression des évangéliques. Jeudi du Vietnam où les cultes sont sous le contrôle du parti. Aujourd'hui la Turquie avec l'héritage malmené de Mustafa Kemal.
Selon l'ancien règlement, si vous portiez un foulard, vous deviez recevoir un avertissement et une réprimande dans un certain délai. Désormais, rien ne peut être fait. On n'a même pas à nous demander de nous expliquer.
Afin de soulager complètement le cœur de nos filles et de nos sœurs, j'ai proposé la liberté du foulard. Qu'ai-je proposé ? D'en faire une garantie constitutionnelle.
Ils essayent de faire oublier Atatürk. Ils tentent de nous prendre notre Atatürk. Ils essayent de se débarrasser de la laïcité. En Turquie, il y a une masse de gens qui est kémaliste, laïque, démocratique, et ça ne changera pas. Notre essence, c'est Atatürk, et personne ne pourra changer notre essence.
C'était dans les années 90, Recep Tayyip Erdogan était encore maire d'Istanbul et dans un discours qui lui vaudra 10 mois de prison, il lit les mots d'un poète nationaliste du début du XXe siècle, Ziya Gökalp. « Les minarets seront nos baïonnettes, les coupoles nos casques », dit ce poème. « Les mosquées seront nos casernes et les croyants nos soldats ». Erdogan sait alors ce que représente une telle référence de la part d'un élu dans une Turquie devenue officiellement laïque dans les années 20, selon le souhait de Mustafa Kemal Atatürk, qui a imposé, y compris par la force, sa vision d'un État moderne. Depuis que le Parti de la Justice et du Développement, l'AKP, est au pouvoir, donc depuis les années 2000, les lignes de cette laïcité à la Turque ont évolué, l'islam a gagné en visibilité dans l'espace public et a pris une certaine place dans le cœur de l'État. De la puissante Diyanet, équivalent du ministère des Cultes, jusqu'à celui de l'Éducation, en passant par Erdogan lui-même, qui ne cesse de faire référence à l'islam, au nom de Dieu, du prophète, même si officiellement la Constitution dispose toujours que les sentiments religieux sacrés ne doivent pas être impliqués dans les affaires de l'État et la politique. Alors existe-t-il toujours deux Turquies, l'une religieuse et conservatrice, l'autre kémaliste, laïque, voire laïciste? Nous en parlons avec nos invités. Bonjour Élise Massicar.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes politiste, directrice de recherche CNRS au CERI, le Centre d'études et de recherche internationale. Vous êtes en duplex depuis ici Provence à Aix-en-Provence. Et nous sommes depuis ici Gironde à Bordeaux avec Nicolas Monceau. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Merci également d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'Université Montaigne de Bordeaux. Votre thèse HDR, bon, habilitation à diriger les recherches, porte sur l'évolution de la laïcité dans la Turquie de l'AKP, perception sociale, polarisation idéologique et idéologie officielle. Alors il faut commencer par s'entendre sur le choix des mots. Nicolas Monceau, c'est vrai qu'on savait bien sûr en titrant cette série « Les voies de la laïcité » que le mot laïcité recouvre une réalité très française. Ceci dit, le mot turc lui ressemble laïclique. Est-ce que Mustafa Kemal Atatürk s'est inspiré de la laïcité française quand il a imposé son propre modèle en Turquie dans les années 20?
Oui, Mustafa Kemal dit Atatürk s'est inspiré du modèle français de laïcité. D'ailleurs, le terme laïclique en turc est emprunté au terme français. Atatürk était très fortement influencé par les concepts politiques en Europe à l'époque, par la Révolution française et par des notions comme la République, l'État-nation ou encore la laïcité. Et lorsqu'il a fondé la République de Turquie en 1923, puis dirigé le pays comme président pendant 15 ans, Et là, effectivement, met en œuvre une modernisation du pays en s'inspirant de la France, plus largement de l'Europe, et en laïcisant le pays. Pour autant, il y a une différence fondamentale entre la conception française de la laïcité et la conception turque du laïclic. La conception française repose sur le principe de séparation de l'État et de la religion, sur le principe de neutralité également de l'État à l'égard de toutes les religions. Or, ces deux principes ne se retrouvent pas en Turquie, dans le sens que, effectivement, Atatürk a imposé une séparation de l'État républicain et de la religion majoritaire qui était l'islam, mais il a aussi instauré un contrôle de la religion musulmane par l'État, à travers en particulier donc l'institution du Diyanet, la présidence des affaires religieuses. Et la neutralité de l'État également a été questionnée à l'époque, puisque le modèle kémaliste de laïcité a été perçu comme un modèle plutôt autoritaire, qui visait à exclure la religion de l'espace public.
Donc on
il a fallu
bien
attendre la fin de Seconde Guerre mondiale, le décès d'Atatürk, pour que d'autres conceptions de la laïcité émergent en Turquie, notamment lorsque la Turquie va se démocratiser avec la fondation de nouveaux partis politiques, des partis conservateurs qui vont s'adresser à un électorat plus rural, avec un mode de vie plus traditionnel, et qui vont exprimer des sensibilités religieuses plus marquées.
En tout cas, vous allez un petit peu vite, pardon Nicolas Monceau, excusez-moi, vous allez un petit peu vite. Il s'agit d'abord de comprendre exactement ce que recouvre ce terme de laïclique, de laïcité turque. Quand Atatürk la proclame, on est en 1923 et c'est le moment où il, par ailleurs, prononce la fin du califat.
La nation turque ne saurait désormais être représentée que par la Grande Assemblée nationale qui a conduit le pays à son indépendance. Le sultanat a fait son temps. Il faut l'abolir.
Malgré l'opposition des notables religieux, la majorité des députés vote l'abolition du sultanat. La dynastie d'Osman ne conserve que la dignité honorifique de chef spirituel des musulmans, le califat.
Alors quand Mustafa Atatürk prononce la création de la République de Turquie en 1923, République de Turquie, État national unifié, il met également fin officiellement à l'Empire ottoman, Nicolas Monceau. L'Empire ottoman, cette longue période pendant laquelle par ailleurs le sultan était le commandeur des croyants. Il y avait aussi la question de contrôler l'islam à ce moment-là. En quoi la vision d'Atatürk diffère? Est-ce que l'Empire ottoman contrôlait l'islam pour le contrôler, l'empêcher ou pour le faire prospérer, et en quoi cette vision est nouvelle quand Atatürk arrive?
Alors, l'islam avait une influence beaucoup plus forte sous l'Empire ottoman, dans la vie politique en particulier. Pendant plusieurs siècles, les sultans ottomans ont également eu une légitimité spirituelle en qualité de calife, donc les chefs de la communauté des croyants. Et effectivement, la religion musulmane était très très présente dans l'Empire, au niveau aussi social, bien entendu. Certains, d'ailleurs, historiens ont parfois comparé l'Empire ottoman à un empire, entre guillemets, théocratique, en raison de l'importance de l'influence de la religion. Et Atatürk, lorsqu'il fonde la République de Turquie en 1923, entend marquer une rupture avec ce passé ottoman, et en particulier avec ce passé islamique de l'Empire, puisqu'il a aussi une vision de la religion comme étant une religion plutôt rétrograde qui s'oppose en quelque sorte à la modernisation de la Turquie, qui représente un obstacle ou un frein au progrès, à la modernité. Et par conséquent, Atatürk va, par des réformes de laïcisation très très importantes, vouloir mettre un terme à l'influence de la religion, et l'a cantonné à la sphère privée, en devenant, en quelque sorte, un aspect de conscience individuelle.
Donc il y a plusieurs façons à l'époque de concevoir la Turquie comme un État moderne. Il y a Atatürk qui pense que la laïcité est un projet de modernisation politique. D'autres, comme le poète nationaliste Ziya Gökalp du début du XXe siècle, Erdogan a cité dans un discours dans les années 90, qui défendait à peu près à la même époque une autre conception de l'État moderne en revendiquant, lui, l'identité islamique. Donc il y a l'objectif, Elise Massicar, et puis il y a la méthode. Est-ce qu'il a fallu imposer cette forme de laïcité ou est-ce que pour beaucoup en Turquie à cette époque, elle allait de soi ?
Alors, en Turquie à l'époque, la laïcité n'allait pas du tout de soi. C'était quand même une révolution. C'est-à-dire que on était dans un empire avec effectivement un sultan calife à la tête de l'État qui avait une autorité politique et une autorité religieuse, qui d'un coup, en 1923, n'a plus d'autorité politique. Dont l'autorité religieuse est abolie par la loi, on va dire, en 1924. Donc c'est une révolution immense et je pense qu'on a du mal à connaître en fait l'état de l'opinion à l'époque parce que évidemment on a peu de moyens d'en avoir une vision claire. Mais ce qu'il faut peut-être ajouter, c'est que on a effectivement quand même déjà une forme de continuité malgré tout entre ce qui se passait sous l'Empire ottoman et la République de Turquie, parce que finalement, ce n'est pas vraiment une séparation de la religion et de l'État, dans la mesure où le lendemain, ou le jour même ou le lendemain, je ne sais plus exactement, de l'abolition du califat, il y a cette présidence des affaires religieuses dont Nicolas Monceau a parlé, qui est établie, et qui est donc une administration étatique qui doit donc gérer Diyanet, exactement, qui doit gérer les questions religieuses et en particulier qui fonctionnarise les imams. C'est-à-dire que les imams restent fonctionnaires. Ils étaient déjà l'équivalent de fonctionnaires, on va dire, sous l'Empire ottoman. Ils restent fonctionnaires. C'est-à-dire que finalement, la religion musulmane, elle est organisée au sein de l'État. D'accord? Mais par contre, ce qui est vraiment différent, je dirais, ou qui est plus, qui change quand même le sens de ce dispositif, c'est que finalement l'État de Atatürk va de plus en plus monopoliser l'islam, ou en tout cas essayer de le monopoliser. C'est-à-dire que sous l'Empire ottoman, on avait d'abord un empire multireligieux. La République de Turquie l'est beaucoup moins parce que tout simplement il y a beaucoup moins de chrétiens, beaucoup moins de juifs, beaucoup moins d'autres groupes religieux. Donc on a la proportion, on va dire, de musulmans est plus importante. Et puis à l'époque, sous l'Empire ottoman, on avait d'autres visions de l'islam qui étaient légitimes. Et en particulier, on avait des organisations musulmanes comme les confréries qui étaient extrêmement puissantes, qui étaient pour certaines bien vues par les institutions, pour d'autres un peu moins, ça dépend des périodes, etc. Mais en fait, on avait quand même une diversité, on va dire, à l'intérieur de l'islam qui, jusqu'à un certain point, était reconnue. Or, Mustafa Kemal va interdire les confréries en 1925, parce que on voit bien là que l'objectif ou un des objectifs de ces réformes, c'était aussi de plus contrôler l'islam en fait, et éventuellement aussi le potentiel mobilisateur de l'islam, parce qu'en 1925 on a une première grande révolte en fait qui est dirigée par un leader qui est à la fois un chef confrérique et aussi nationaliste kurde. Donc en fait à partir de là, on va interdire les confréries. Petit à petit on voit que finalement toutes ces différentes versions de l'islam qui étaient existantes et légitimes, elles deviennent de plus en plus illégitimes et exclues de la sphère publique. Ça ne veut pas dire qu'elles disparaissent bien sûr du jour au lendemain, ça veut dire simplement que l'État va tenter de monopoliser l'islam donc, et de ne pas reconnaître, c'est-à-dire que va y avoir la dimension, on va dire, plurielle de la religion n'est pas du tout à l'ordre du jour. C'est-à-dire qu'en fait, on a pratiquement, alors ça ne se dit pas comme ça parce qu'à partir de 1928 il n'y a plus de religion d'État, mais malgré tout il y a une forme d'islam qui est institutionnalisée dans l'État et qui est une forme de religion officielle et qui exclut un certain nombre d'orientations religieuses, évidemment des non-musulmans, mais aussi de certains musulmans.
Les Alevis,
qui vont,
par
en
exemple.
Fait, les Alevis en particulier. Alors, les Alevis qui sont donc un groupe, enfin, un ensemble de groupes assez hétérodoxes et assez, avec des formes de tradition ésotériques, mais qui sont dont le lien à l'islam d'ailleurs est très contesté, c'est-à-dire pour certains c'est une branche de l'islam, pour d'autres il y a des éléments qui sont qu'on a beaucoup de mal à rattacher à l'islam et donc qui ferait que on se retrouverait finalement en dehors de l'islam. Enfin, tout ça est assez complexe, mais quoi qu'il en soit, les Alevis étaient déjà considérés comme non vraiment musulmans, ni vraiment légitimes sous l'Empire ottoman, et ça continue à être le cas en fait sous la République de Turquie, ce qui fait que alors on estime que c'est autour de 15% de la population, on ne sait pas très bien parce qu'il n'y a pas de statistiques. Bon, disons autour de 15%, qui du coup ne sont pas du tout, n'ont pas de statut, n'ont aucune reconnaissance, sont considérés officiellement en fait comme des musulmans qui se seraient un petit peu égarés sur la voie de, sur la juste voie, on va dire, et donc qui se retrouvent là encore sans vraiment de place et quelque part marginalisés par rapport à une orientation religieuse, cet islam quasi officiel, en fait, qui est un islam sunnite, qui se veut moderne, hein, vous l'avez dit. Finalement, cette modernité de Mustafa Kemal, c'est pas tellement d'exclure complètement la religion, c'est de l'exclure effectivement des affaires d'État, mais tout en la contrôlant et tout en promouvant une version religieuse, qui soit moderniste, qui soit unitaire, qui soit nationale aussi. Donc on est vraiment dans un projet de formation d'un État et d'un État-nation. En fait.
Donc cette laïcité s'impose, et d'ailleurs d'aucuns disent que la laïcité de toute façon s'impose, contrairement à la sécularisation qui advient, qui est un mouvement plus naturel. En tout cas, tous les réfractaires à l'époque d'Atatürk, notamment à l'interdiction du port du fez ou du turban, encourent des sanctions, de prison. Il y a cette cheville ouvrière de la laïclique, le Diyanet, dont vous parlez, qui à l'origine s'occupe de nommer salariés les imams, mais dont le champ de prérogatives va être élargi dans les années 40, 60 et plus encore, depuis que l'AKP est au pouvoir. Cette laïcité à la Turque, elle survit à la mort d'Atatürk en 38, elle est inscrite dans la Constitution, même si le pluralisme advient à sa mort. Les partis s'emparent de cette question par ailleurs et des débats surgissent de toute façon, mais l'AKP, qui est un parti par ailleurs relativement jeune, né en 2001, Nicolas Monceau, la formation politique dans laquelle sont ses racines, c'est le parti de la vertu de Necmettin Erbakan. Quelles sont les positions de ce parti-là à ce moment-là? Comment est-ce qu'on peut comprendre la position de l'AKP aujourd'hui sur cette question de la laïcité en remontant un petit peu dans le temps et en allant voir chez les ancêtres, entre guillemets, du parti d'Erdogan?
Alors l'AKP, effectivement, pour comprendre la politique de ce parti qui est au pouvoir en Turquie depuis 2002, à l'égard du laïclique, il faut remonter effectivement aux racines de ce parti et d'où viennent ses fondateurs, dont l'actuel président Recep Tayyip Erdogan et ses dirigeants. Et l'AKP s'inscrit dans l'héritage et le sillage d'un courant politique qui est né en Turquie au début des années 1970 et qu'on a associé communément à ce qu'on appelait l'islam politique ou l'islamisme. Et l'un des pères spirituels de l'actuel président est Necmettin Erbakan, qui a été le fondateur du premier parti considéré comme islamiste en Turquie en 1970, le Parti de l'Ordre National, et puis qui a été très rapidement interdit par... à la suite d'une intervention militaire, en étant accusé d'être un parti anti-laïque. Et par la suite, tous les autres partis qui vont être fondés dans ce même courant, jusqu'à l'AKP, seront dont le parti de la vertu, mais également auparavant un parti qui va jouer un rôle très important, le parti de la prospérité, dans les années 80-90. C'est sous cette bannière que Recep Tayyip Erdogan va conquérir la mairie d'Istanbul en 1994, et puis le parti ensuite va remporter les élections législatives en 1995 et va diriger le pays, le gouvernement, dans le cadre d'une coalition. Tous ces partis seront donc interdits les uns après les autres par la Cour constitutionnelle de Turquie, ou suite à des interventions militaires comme en 1980 ou en 1997, en étant accusés d'être des partis anti-laïques. Et donc la politique et aussi la stratégie de l'AKP à partir des années 2000, et l'un de ses fondateurs, Recep Tayyip Erdogan, a été emprisonné et banni de la vie politique pour avoir été accusé de représenter une menace à la laïcité. Toute cette politique et stratégie du parti va viser précisément à tenter de faire faire évoluer la conception du laïc-clic en Turquie, aussi en évitant d'être interdit comme les partis précédents. Pour ses adversaires, le débat va donc s'engager sur deux conceptions de la laïcité, une conception plus libérale portée par l'AKP, face à une conception jugée plus autoritaire du laïc-clic et associée à l'héritage kémaliste.
Sauf que quand Recep Tayyip Erdogan arrive au pouvoir, d'abord comme Premier ministre en 2003, il fait amender la Constitution à deux reprises, mais il ne revient pas sur la laïc-clic. Elise Massicar, pourquoi ? Est-ce qu'il en a été empêché par la Cour constitutionnelle ou il n'a même pas essayé ?
N'a même pas essayé. C'est, si vous voulez, le principe, le terme de laïc-clic, c'est un principe constitutionnel. Et pour le modifier, il faut vraiment avoir rassembler une majorité très forte, et c'est surtout un sujet inflammable extrêmement vite. C'est extrêmement difficile, étant donné les débats qu'il y a eu autour de cette question à partir des années, on va dire 1990, peut-être même un petit peu avant, extrêmement agité. C'est un sujet qui met le feu, en fait, dans ces années-là en Turquie. Et quand l'AKP arrive au pouvoir et Erdogan devient Premier ministre en 2003, eh bien, il a d'abord essayé de se faire accepter comme Premier ministre légitime. Et lui-même, on l'a dit, hein, il a été condamné pour avoir lu ce poème. Évidemment, tous les défenseurs de la laïcité ont scruté le moindre de ses gestes, la moindre de ses paroles. Et ils savaient très bien qu'essayer d'enlever ou de modifier ce terme, cet article de la Constitution, c'était le meilleur moyen de se faire interdire de vie politique et de se faire sanctionner. Donc en fait, l'AKP, de toute façon, a eu quand même une approche plus, on va dire, plus conciliante, dans la mesure où il y a eu beaucoup de réformes qui ont été menées par l'AKP et qui ont détricoté un certain nombre de pratiques, de lois, etc., liées à la laïcité, mais ils ne l'ont pas directement, en tout cas, au début, attaqué de front. D'autant plus que à l'époque, au début des années 2000, la justice et la Cour constitutionnelle en particulier étaient quand même dominées par des défenseurs de la laïcité. Donc ils étaient sûrs de perdre. Ils ont en fait effectivement essayé de modifier la compréhension et les pratiques autour de ces questions religieuses sans attaquer directement et frontalement le principe de laïcité, en le contournant, en le réinterprétant, voilà, et en le redéfinissant à la limite. Et aujourd'hui, ce principe est encore dans la Constitution. En revanche, on s'en réclame un petit peu moins qu'avant, on va dire. Et c'est surtout les pratiques et les lois qui ont énormément évolué sur ces 20 dernières années. Alors, pas au tout début, en fait, de l'arrivée de l'AKP au pouvoir, précisément parce qu'ils avaient très peur d'être sanctionnés. Ils ont, d'ailleurs, l'AKP a failli quand même être interdit pour des questions d'atteinte à la laïcité en 2008 encore. Donc, ils savaient très bien qu'ils risquaient gros. Donc, ils n'ont pas attaqué du tout frontalement. Ils ont attendu vraiment d'être beaucoup plus... d'avoir une assise, on va dire, au sein des institutions beaucoup plus solide, et en particulier par rapport à la justice, pour commencer à modifier les pratiques. Ils ont fait ça de plusieurs manières, en particulier avec une loi sur le Dianet en 2010 qui a vraiment modifié les missions du Dianet, qui les a étendues. Également de manière, on va dire que c'est des petites mesures, en fait, qui, je vais pas dire qu'elles sont discrètes, mais qui ne s'accompagnent pas forcément d'un énorme débat. Mais par exemple, le budget du Dianet, a augmenté de manière extrêmement régulière, mais sur les 20, presque 25 ans de pouvoir, c'est vraiment considérable, hein. Donc voilà, le budget de l'État consacré aux questions religieuses a été énormément accru ces dernières années. Voilà, il y a eu des aménagements législatifs, il y a eu une réforme de l'éducation qui a été tout à fait centrale par rapport à cette question, de modifier finalement les relations entre État et religion en Turquie.
Sur le Dianet, dont vous rappeliez tous les deux qu'il s'agit d'une administration et non d'un ministère, en effet, son budget est aujourd'hui à 1,2 milliard d'euros, et ça c'est à peu près depuis l'arrivée au pouvoir de l'AKP. C'est une institution titanesque qui emploie 14 000 fonctionnaires fonctionnaires dont les prérogatives se sont progressivement élargies. Elle s'est peu à peu immiscée dans le champ politique. On l'a d'abord chargée de la logistique des pèlerinages à la Mecque, ce qui, d'après vos travaux, est une immixtion dans le champ politique, notamment parce que c'est propice au clientélisme. On l'a chargée de la traduction officielle du Coran et de différents livres religieux. C'est elle qui donne le thème du sermon prononcé dans les mosquées le vendredi. Tout ça s'est fait très progressivement, notamment parce qu'Erdogan savait, comme vous le disiez, qu'il risquait gros en attentant à la Constitution s'il ne se montrait pas respectueux de la laïcité, et aussi parce qu'en 2007, quand il a annoncé qu'il allait autoriser le port du voile dans les universités, la société turque s'est largement mobilisée. Reportage France 3, c'est une archive de 2007.
Étaient-ils 200 000, 300 000, plus d'un million? Les sources divergent, mais la manifestation qui a pris possession aujourd'hui des rues d'Istanbul avait toutes les caractéristiques d'une marée humaine. Les partis d'opposition et les associations laïques qui l'ont organisée ne pourront que se féliciter de son succès et souligner l'attachement de la population turque à la laïcité.
La Turquie est laïque et le restera. C'est pour ça que je suis ici et que nous sommes aussi nombreux.
Une manifestation de soutien à la laïcité, mais aussi à l'institution qui s'érige en défenseur de sa survie.
Les militaires ont fondé la République turque. Ils ont donc le droit de s'exprimer. Nous ferons confiance à l'armée jusqu'à la fin.
Grande manifestation organisée donc à Istanbul, Ankara et ailleurs en Turquie quand le gouvernement annonce qu'il va autoriser le port du voile dans les universités. Finalement, cette loi sera adoptée l'année suivante en 2008 après de grands débats également au Parlement. Est-ce que cette question divise toujours le champ politique, Nicolas Monceau? Est-ce que ce genre de manifestation ou les débats au Parlement qui ont eu lieu en 2007-2008, est-ce qu'ils sont encore possibles aujourd'hui à chaque fois qu'Erdogan, par exemple, parle au nom de la religion dans ses discours ou qu'il met en place, qu'il fait fermer des écoles publiques pour les remplacer par des écoles qu'on appelle imam atip, ces écoles, collèges et lycées dans lesquelles sont censés être formés les imams, mais qui sont de plus en plus destinés à tous les enfants turcs. Est-ce que ces débats existent encore?
Ces débats existent encore, mais ils n'ont plus du tout la même intensité qu'ils avaient encore dans les années de 2000, durant les premières années au pouvoir de l'AKP, lorsque des écoles publiques sont fermées ou remplacées par des établissements religieux, donc dit les lycées des imams atip, il y a des protestations de la part de l'opposition républicaine, donc le parti républicain du peuple, le CHP, qui avait été fondé à l'époque par Atatürk. Il y a aussi des protestations de la part d'associations kémalistes, mais il n'y a plus aujourd'hui en Turquie de grandes manifestations populaires en défense de la République ou de la laïcité, comme ce fut le cas au milieu des années 2000. On pourrait dire d'une certaine façon que cet enjeu du laïclique est toujours présent, mais il n'a plus la centralité qu'il avait auparavant, et les mobilisations, les manifestations désormais se concentrent sur d'autres enjeux que celui de laïclique, en l'occurrence la question du respect de l'état de droit et plus large des droits de l'homme.
Sur cette question des écoles qu'on appelle imam haptip, est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus peut-être sur ces écoles-là dont l'AKP a soutenu le développement? Leur nombre a explosé ces dernières années. Ce ne sont pas des écoles coraniques, on y enseigne aussi des matières généralistes. Néanmoins, c'est là que se dirigent a priori les enfants, les élèves qui se destinent à des études religieuses. On en compte aujourd'hui plus de 5000 contre 450 en 2002. Et surtout, ces établissements publics transformés pour certains en écoles imam haptip, parfois ça s'est fait au prix d'années de lutte avec les enseignants, les parents d'élèves, les habitants des quartiers. Par exemple, sur la rive européenne d'Istanbul, dans l'arrondissement de Besiktas, un collège qui était plutôt apprécié pour le très bon niveau des élèves qui en sortent et à qui on a dit il y a maintenant presque 10 ans qu'ils allaient être transformés en école imam haptip. Est-ce que finalement ça s'est fait? Est-ce que ça se fait progressivement ou du jour au lendemain? Élise Massicard, qu'est-ce qu'on peut dire de ces écoles?
Alors, ça s'est fait, hein, cette réforme de l'éducation, elle s'est fait, elle a été mise en place il y a une dizaine d'années, de manière un petit peu progressive, mais là, elle est terminée. C'est-à-dire que, finalement, il y a toujours eu une espèce d'ambivalence sur ces écoles de imam atib, donc imam prédicateur. Est-ce que ce serait des écoles professionnalisantes pour former des imams, ou des écoles confessionnelles, un petit peu comme les écoles catholiques en France, où c'est des écoles généralistes, mais à dimension religieuse. Bon, et très clairement, là, avec cette réforme, c'est ça qui a été privilégié. Et puis surtout, le nombre, comme vous l'avez dit, hein, de ces écoles a été augmenté. Mais c'est pas seulement ça, c'est les options éducatives en fait qui se présentent aux parents. La question, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'établissements classiques non religieux ont été fermés, transformés en écoles imamatibes, ce qui fait que dans certains quartiers, en fonction des profils des élèves, voilà, les parents n'ont plus vraiment le choix que de mettre leurs enfants dans ces écoles-là. Et donc, on a une socialisation religieuse beaucoup plus forte qu'auparavant. D'ailleurs, Erdogan l'a dit, hein, que son projet, c'était de former une jeunesse religieuse, une jeunesse croyante. Et c'est vrai que la jeunesse est vraiment au cœur, je dirais, de ce projet-là. On l'a aussi, on le voit, la jeunesse et les femmes. Ce sont les cibles principales. Ça se voit aussi par le fait qu'a été créée une nouvelle institution. C'est des femmes, principalement, qui sont rattachées au Dianet. Ça a été créé il y a une quinzaine d'années. Ce sont des prédicatrices. Et donc, l'idée, à partir de la réforme du Dianet de 2010, c'est que la religion ne doit pas être cantonnée aux mosquées. Et que le Dianet doit intervenir dans toutes les sphères de la société, en particulier sur les questions morales et en particulier sur la sphère familiale. Et donc ont été créés des bureaux de conseil religieux et familial, avec des prédicatrices qui sont des femmes qui vont rendre visite à des femmes et qui vont avoir un discours teinté de religion, mais qui ne sont, voilà, elles sont pas rattachées à une mosquée. Précisément, l'idée, c'est de répandre en fait la question religieuse au-delà de la mosquée. Donc, y compris dans les écoles, y compris dans les centres sociaux. Ça veut dire que des types de milieux et des personnes qui jusque-là n'étaient pas vraiment en contact avec le Dianet, tout simplement parce qu'ils n'allaient pas à la mosquée, maintenant, je dirais depuis 10-15 ans, sont en fait beaucoup plus en contact avec les questions religieuses telles que proférées par l'État, donc avec le Dianet. Donc il y a vraiment, on voit comment les institutions vont vraiment innerver beaucoup plus la société sur ces questions religieuses qu'avant.
Et tous les élèves de Turquie, qu'ils soient formés dans une école imam atip ou pas, aujourd'hui sont beaucoup plus en contact avec notamment les cours de religion. C'est une refonte des programmes scolaires qui date d'il y a un an ou deux, je crois, qui avait placé la vertu comme l'un des trois piliers de l'éducation, les vertus, les valeurs et l'action. Un programme qui mettait l'accent sur les cours de religion dans toutes les écoles. Ça avait aussi généré pas mal des établissements qui avaient pris ensuite, suite à cette refonte, des certaines libertés avec des circulaires comme en juin 2024, quand des lycéennes d'un établissement en banlieue d'Istanbul se sont vues refuser l'accès à une cérémonie de remise de diplôme pour tenue vestimentaire inappropriée. L'établissement s'était apparemment senti libre d'appliquer ces nouvelles règles en vertu de cette refonte des programmes scolaires. Le recteur d'académie avait dû intervenir. Donc cette question continue à brasser la société, même si elle ne déclenche plus de grandes manifestations comme dans les années 2000, Nicolas Monceau. Maintenant, dans le champ politique, comment les partis se positionnent? Le CHP, le parti kémaliste, avait longtemps fait presque son fond de commerce, entre guillemets, des questions du respect de la laïcité, de défense de la laïcité. Aujourd'hui, on a l'impression que lui aussi glisse progressivement, en tout cas change son discours.
Oui, alors il y a eu un glissement qu'on a pu observer il y a quelques années dans les positions ou les discours des dirigeants du CHP. Alors, peut-être aussi est-ce conjoncturel, puisque c'était dans le contexte de la campagne électorale des présidentielles qui avait lieu en 2000, et législatives qui avait lieu en 2023. Mais effectivement, le dirigeant du CHP, qui par la suite a été le candidat unique de l'opposition à ces élections présidentielles, avait déclaré à la fin de l'année 2022 sa volonté de légiférer par le Parlement, donc, afin de garantir le droit des femmes turques à porter le voile, donc d'adopter une loi. Et effectivement, cette prise de position avait suscité une certaine stupeur au sein de ses propres rangs. Et par la suite, le président Erdogan, d'ailleurs, a renchéri en proposant d'organiser un référendum afin de faire réviser la Constitution pour inscrire donc dans le texte constitutionnel le droit des femmes en Turquie à porter le voile. Ces déclarations n'ont pas donné suite à une mise en œuvre, mais ont effectivement mis en lumière aussi parfois soit des ambiguïtés, soit des difficultés du principal parti d'opposition en Turquie à se positionner face à cet enjeu du laïclique et aussi à la volonté d'envoyer des messages auprès de l'électorat, en particulier l'électorat conservateur, davantage sensible à la politique et au discours de l'AKP, afin de mobiliser aussi ou d'attirer une partie de cet électorat.
Élise Massicard, qui sont ceux aujourd'hui en Turquie qui continuent à défendre bec et ongle une laïcité à la turque du type celle à laquelle pensait Atatürk quand il l'a imposée dans les années 20 ? Quelle place prend aujourd'hui cette question donc dans les partis politiques ? On a entendu Nicolas Monceau nous dire comment le parti kémaliste lui-même avait progressivement changé son discours sur la laïcité, mais il y a aussi par exemple chez les Kurdes, la gauche turque laïque était très attachée à la laïcité. Est-ce que même dans les milieux kurdes aujourd'hui, on entend des discours beaucoup moins attachés que la laïcité qu'ils n'ont pu l'être dans le passé ? Est-ce que dans la société civile, les syndicats enseignants, par exemple, sont toujours là pour faire un peu rempart contre toutes les mesures prises dans l'éducation pour que la religion progressivement reprenne le pas ?
Écoutez, je pense que la laïcité est plus vraiment, on va dire, un mot d'ordre de lutte politique, parce que tout simplement, les défenseurs de la laïcité ont perdu, en fait. C'est-à-dire que il y a quand même un rouleau compresseur très très fort. Je voulais vous corriger parce que vous avez dit que le Dianet avait 14 000 employés, il y a 140 000 employés.
140 000, pardon.
Oui, 140 000. Non, c'est vraiment énorme. Alors, après, je crois que là où certains milieux se battent, c'est pour la défense de certaines libertés, c'est-à-dire pour ne pas être complètement assujetti à ces mesures. Par exemple, sur la question de l'enseignement religieux à l'école. Ça, c'est des choses qui sont portées par les milieux kémalistes durs, les milieux alévis, certains milieux de gauche et aussi athéistes, hein, dont parlera notre intervenant après. Donc ça, c'est des choses qui, être exempté des cours de religion obligatoires, ça, c'est des choses qui ont été portées par ces milieux-là jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Et d'ailleurs avec succès, c'est-à-dire que la Cour européenne des droits de l'homme a à plusieurs reprises condamné la Turquie pour discrimination en fait religieuse, c'est-à-dire pour ne pas respecter les différentes orientations possibles religieuses des citoyens et pour imposer en fait un enseignement qui est obligatoire et qui est très marqué par une orientation précise. La Turquie a été condamnée. Elle a un petit peu modifié les programmes, mais en fait, elle n'applique pas en fait la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc on voit là comment certaines luttes, elles existent. On peut pas dire qu'elles sont mortes, mais elles ne portent pas énormément de fruits. C'est pour ça un petit peu, je crois que on va dire que la question du débat politique s'est décalée. C'est vrai que le principal leader de l'opposition, İmamoğlu, donc lui, alors bien que étant donc d'un parti kémaliste, le parti fondé par Mustafa Kemal, a effectivement ne s'est pas du tout battu pour la laïcité, pour une conception antérieure de la laïcité, mais pour plus de tolérance et moins d'imposition en fait de questions religieuses sur les citoyens. Et dans les milieux kurdes, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire là aussi, c'est très clivant parce que une partie de la société kurde est très conservatrice et très religieuse, très pieuse. Donc c'est compliqué comme argument politique, si vous voulez. Et donc le parti principal, parti pro-kurde, il est plus sur une vision d'essayer de défendre la tolérance, le pluralisme. Finalement, ils ont repris un petit peu la dimension libérale que l'AKP avait portée au début des années 2000 et que l'AKP a laissée sur le bord de la route et qui a été reprise aujourd'hui par d'autres partis, et notamment le parti pro-kurde et en partie un petit peu le parti kémaliste.
Et vous avez fait, Élise Massicard, une transition avec notre focus qui va advenir dans un instant avec Théo Malchok, les jeunes turcs qui aujourd'hui disent refuser l'islam d'État, qui se déclarent athées ou athéistes même jusqu'à déistes. On en parle juste après cette chanteuse turque Gökçe Kılınçen. Sabah oldu yola dön, yola dön. Ona dönme bana dön, bana dön. Bahar ile yaza dön, yaza dön. Zor yollar benim. Bilinmiyor akıbetim hallarım. Bir dert ile yaktı benim bağlarım. Siyah oldu allar ile güllerim. Zor yollar benim. Zolar Benim, mes chemins sont difficiles, de la chanteuse turque Gökçe Kılınçer. C'est une chanson qui date de 2022. Vous écoutez Culture Monde, premier épisode de notre nouvelle série sur les différentes voies de la laïcité. Aujourd'hui en Turquie, où l'héritage d'Atatürk est aujourd'hui malmené par l'AKP au pouvoir et face au conservatisme du parti, une partie des jeunes turcs aujourd'hui disent refuser cet islam d'État.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Moi, je travaillais à un endroit pendant près de 6 ans. Jusqu'à ce que je devienne athée, je n'ai jamais vécu de problème de paiement ou quoi que ce soit. Pourquoi ? Car à l'époque, j'étais encore musulman. Mais dès que je suis devenu athée, à partir du mois de février dernier, mon salaire, qui était, disons, de 2500 livres turcs, ils l'ont réduit à 1500 livres et le mois suivant, à 1000 livres. Ma famille est extrêmement conservatrice. Mon père a même effectué le pèlerinage à la Mecque, il a fait le tour de la Kaaba. Mais on ne peut pas changer la mentalité des gens. Expulsion de sa famille, séparation d'avec ses amis ou de son conjoint, il s'agit d'une pression psychologique.
Un jeune homme rencontré par France 24 qui se revendique athée. Il n'est pas le seul aujourd'hui à refuser de faire partie de cette génération pieuse que Recep Tayyip Erdogan avait dit en 2012 vouloir former. Bonjour Théo Malchok.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes doctorant à l'EHESS, chercheur associé à l'Institut français d'études anatoliennes, l'IFEA. Alors d'abord, bon, il n'est pas simple d'évaluer la tendance qu'ont les jeunes turcs aujourd'hui à s'éloigner de l'islam, au moins dans la pratique. Est-ce que néanmoins c'est une question qui est un sujet politique, est-ce qu'on essaye de le savoir? Il y a des sondages qui sortent régulièrement. Que disent ces sondages et surtout quelle utilisation en est faite dans la sphère politique?
Alors oui, l'athéisme, c'est un sujet politique, c'est un sujet médiatique aussi de plus en plus et de plus en plus un sujet académique. Vous avez parlé d'un sondage, vous avez parlé des sondages. Effectivement, depuis 2018-2019, il y a de plus en plus de sondages, mais qui ne sont pas très fiables en vérité, parce qu'il y a beaucoup de problèmes méthodologiques, les questions de marge d'incertitude. On est souvent entre 1 et 5% d'estimation, donc sous la marge d'erreur.
De personnes qui se revendiquent athées, vous voulez dire?
De personnes qui se déclarent athées ou qui disent ne pas croire en Dieu. En fait, le problème, c'est que les questions sont souvent mal définies, biaisées. Voilà. Mais on dispose, en revanche, de plus en plus d'enquêtes universitaires, d'enquêtes quantitatives, mais aussi d'enquêtes qualitatives, Et ces enquêtes universitaires, que ce soit des enquêtes internationales ou des enquêtes nationales, des universités turques qui se penchent sur la question de plus en plus, montrent qu'il n'y a pas nécessairement une augmentation de l'athéisme, hein, d'un athéisme radical, d'un rejet radical de la religion ou de la croyance en Dieu, mais de plus en plus de doutes, de plus en plus de scepticisme à l'égard des modes d'appartenance, des systèmes de croyance, des attitudes religieuses d'avant, et notamment de ceux dont se revendique le pouvoir actuel.
Cet institut de sondage Conda, par exemple, qui fait régulièrement des enquêtes sur ces sujets, il affirme que les jeunes ne sont plus que 58% à observer le jeûne du Ramadan contre 75% 10 ans plus tôt, que 50% des filles portent le voile contre 57% 10 ans plus tôt, etc. À chaque fois, quels échos ont ces enquêtes, et notamment celles qui disaient en 2019, je crois, voilà, que les athées et incroyants étaient passés de 1 à 3% de la population turque, avec toutes les précautions que vous venez de nous rappeler, par ailleurs Théo Malchok. Néanmoins, est-ce que les politiques ont réagi ?
Oui, bien sûr. Alors, en 2019, lorsque les résultats de ce sondage sont sortis, ça a créé une panique morale au sein des milieux conservateurs, dans la presse conservatrice, pro-gouvernementale. Mais ce n'était que l'écho d'une affaire précédente, en avril 2018, dans ce que la sphère médiatique a appelé les débats sur le déisme. Qui est parti en fait d'un ensemble de témoignages de professeurs de théologie, d'enseignants de cours de religion à l'école, en fait tout un tas d'acteurs du champ de l'éducation religieuse qui ont observé dans leur classe de plus en plus de questions, de remises en question sur la foi, sur la doxa islamique.
Ça avait même fait l'objet d'un séminaire. Le ministère de l'Éducation en était tellement ému qu'il y avait eu un séminaire dans la ville de Konya, une ville conservatrice de l'Anatolie. Et Erdogan s'en était lui-même indigné en aparté. Il avait dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» ou quelque chose comme ça. Et son micro était ouvert, on l'avait entendu.
Exactement. Et ça, c'était en avril 2018, en effet. Et ce qui montre que le pouvoir suit de près cette question. Mais ce qui a changé, ce qui est intéressant avec cette affaire de 2018, puis des sondages de 2019 et des années suivantes, c'est que on a un tournant dans le traitement politique de l'athéisme au sein de l'AKP, parce que auparavant, on va dire au tournant des années 2010, l'AKP n'avait eu de cesse d'accuser l'opposition kémaliste de vouloir normaliser l'athéisme auprès des jeunes, de vouloir former une génération athée. Et en ça, en fait, l'AKP était dans la continuité des partis conservateurs, des partis de droite, voilà. Mais la particularité de la situation actuelle, c'est que c'est aujourd'hui l'AKP qui est accusé à son tour par l'opposition kémaliste de dégoûter les jeunes de la religion. Parce que c'est en fait la stratégie autoritaire, le rapport dogmatique à la religion et l'inflation du discours religieux et des dispositifs d'éducation religieuse qui, selon certains universitaires aussi, éloignerait les jeunes, mais pas seulement les jeunes, et d'autant plus les jeunes issus des milieux conservateurs, donc issus des milieux soutien de l'AKP, qui seraient voilà, en rupture de plus en plus avec la religion.
Donc des jeunes qui ne rejettent pas nécessairement la religion en général ou l'islam en particulier, mais plus précisément l'usage qui en est fait par l'AKP. Il y avait un article de Delphine Minoui, je crois dans le Figaro, de jeunes qui disaient avoir pris leur distance avec un parti qui construit autant de mosquées que de centres commerciaux. Notamment, on s'émeut de ce que le président a un palais à Ankara qui a coûté plus de 400 millions d'euros. Enfin voilà, il y a un décalage entre la pratique et ce qui est dit. Est-ce qu'aujourd'hui, même si chacun est censé pouvoir croire ou ne pas croire en son âme et conscience selon la laïcité à la turque, mais est-ce qu'aujourd'hui être athée, c'est un véritable combat politique, enfin une position politique ?
Oui, alors ça l'est depuis les années 80, en fait, depuis que la religion s'est installée plus durablement dans l'espace politique, public, à l'école, etc. Mais c'est un mouvement, le mouvement athéiste, qui s'est institutionnalisé dans les années 2010, et notamment autour d'une association qui s'appelle l'Association de l'athéisme, tout simplement, Ateizm Derneği en turc, qui compte peu de membres, mais qui est assez active, notamment sur la question du droit et sur la question de la laïcité, et qui a réagi, en fait, qui a été fondée en réaction à un certain nombre d'affaires judiciaires qui ont pénalisé le blasphème, entre guillemets. Parce que voilà, la déclaration d'athéisme n'est pas interdite en soi en Turquie. L'athéisme dans l'espace public, c'est pas interdit. Il n'y a pas de loi contre l'apostasie, contre l'hérésie, contrairement à d'autres pays musulmans, par exemple. Mais en revanche, sur la question du blasphème, entre guillemets, on observe certaines atteintes à la liberté d'expression, parce qu'il y a un article dans le code pénal, l'article 216 alinéa 3, pour être précis, qui dit, je cite, « Toute personne qui insulte publiquement les valeurs religieuses d'une partie de la population est passible d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 1 an si cet acte est susceptible de troubler l'ordre public. »
Et elle est régulièrement mobilisée, cette loi-là ?
Oui, et cette loi-là est régulièrement mobilisée. Il y a de nombreux exemples qui montrent que cette loi elle est bien appliquée. Récemment, il y a le youtubeur Diamond Tema, qui est un youtubeur suivi par près d'un million de personnes, qui a été visé par un mandat d'arrêt après avoir comparé, en gros, le prophète à un pédophile dans un débat sur YouTube. Il y a la rédaction de Leman, un des derniers journaux satiriques de Turquie, qui a été incarcéré en juin 2025, donc cette année, pour une caricature qui représenterait le prophète. Voilà. Et donc, pour les militants des personnes athées, des droits des personnes athées, toutes ces affaires montrent que là, on a bien une loi qui n'est pas nécessairement une loi contre l'incitation à la haine, parce que c'est comme ça que le gouvernement la présente, mais une loi qui vise à protéger, qui donne à protéger la religion majoritaire et qui donne à la justice le moyen de museler la critique de l'orthodoxie sunnite dont se réclame le pouvoir.
Donc, vous disiez, c'est une association qui a peu de membres, 300, je crois, à peu près, 50 000 personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux. C'est une association qui peine manifestement à rassembler au-delà de certains groupes de militants de gauche. Est-ce que c'est au directeur de cette association qu'on a menacé de couper la tête et les mains, menace proférée par le président d'une autre association pour la charia cette fois? Et est-ce que lui a été poursuivi pour de tels propos? Quand des menaces sont proférées sur ceux qui se revendiquent comme athées, est-ce que ceux qui les menacent sont aussi poursuivis autant que ceux qui se revendiquent de leur athéisme?
Alors en général, non. C'est à géométrie variable. Et d'ailleurs, en 2014 ou en 2015, cette association avait poursuivi en justice un prédicateur, Nihat Atipoğlu, qui avait comparé à la télévision les athées à des engeances...
Les enfants de Satan.
À des enfants de Satan, c'est ça, exactement. Mais voilà, l'affaire a été classée sans suite. Et elle n'a pas... Voilà, ce prédicateur en question, il n'a pas été inquiété.
Merci beaucoup Théo Malchok, doctorant à l'EHESS, merci. Chercheur associé à l'Institut français des études anatoliennes. Peut-être un tout petit mot de conclusion, Élise Massicard, pour savoir dans quelle mesure le discours aujourd'hui de Recep Tayyip Erdogan sur l'islam ou la centralité de l'islam dans son projet politique lui sert à l'étranger. Est-ce que c'est un atout diplomatique aujourd'hui auprès de plusieurs partenaires, cette mise à distance de la laïcité à la turque?
Alors oui, absolument. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas dit, mais le Dianet est organisé aussi à l'étranger. Il a des représentations dans les consulats, les ambassades, partout dans le monde. Et la dimension religieuse est devenue de plus en plus importante dans la politique étrangère de la Turquie. Donc c'est aujourd'hui, on va dire que la Turquie essaye aussi de se positionner sur les questions musulmanes dans le monde, en fait, hein, avec une certaine centralité. Donc c'est très important. Après, c'est une dimension qui est mobilisée ou pas en fonction des enjeux. C'est quand même un chef d'État très pragmatique et qui sait adapter à son auditoire, hein, son message. Donc ça dépend vraiment, vraiment des enjeux et des partenaires.
Merci beaucoup Élise Massicard d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directrice de recherche CNRS au CERI. Vous étiez en duplex depuis ICI Provence à Aix-en-Provence. Et merci beaucoup Nicolas Monceau également qui étiez en duplex depuis ICI Gironde à Bordeaux. Merci d'ailleurs aux équipes des ex-France Bleu de vous avoir accueillis. C'est l'heure de la revue de presse internationale. Estelle Caméraire, vous centrez votre revue de presse d'abord au Bénin, où une tentative de coup d'État a été déjouée hier.
Quelques heures après la tentative de prise de contrôle de la télévision nationale par un groupe de 14 militaires qui ont annoncé la destitution du chef de l'État hier matin, le président du Bénin, Patrice Talon, est apparu sur Bénin TV pour rassurer la population et annoncer un retour à la normale, rapporte la Nouvelle Tribune. Le quotidien béninois précise aussi que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a envoyé des troupes du Nigeria, de Sierra Leone, de Côte d'Ivoire et du Ghana pour ramener de la stabilité sur le territoire béninois. Mais les habitants de Cotonou, la capitale économique du Bénin, sont sous le choc, explique la BBC. Après des coups de feu dans la matinée, trois avions de chasse envoyés par le Nigeria ont grondé au-dessus de la ville avant de mener une frappe aérienne, poursuit le média britannique. Coups de feu, avions, explosions, de quoi terrifier les Béninois et rappeler de mauvais souvenirs, comme le racontent deux commerçants au micro de la BBC.
C'est la peur totale, c'est la peur bleue, parce que c'est la première fois que nous vivons en direct un truc pareil, et jusque là c'est la peur.
On n'a jamais entendu ça. C'est comme si je revivais au fait ce que nos parents ont vécu en ce temps-là.
Ce temps-là, c'est le temps des coups d'État qui ont marqué l'histoire du Bénin, rappelle le New York Times. Après son indépendance en 1960, l'ancienne colonie française avait subi 6 coups d'État militaires en 17 ans.
Mais après des élections libres en 1991, le pays a connu une relative stabilité politique.
Et a longtemps fait figure d'exception dans une région instable, assure le New York Times. En particulier ces dernières années, l'Afrique de l'Ouest a été secouée par 9 coups d'État militaires entre 2020 et 2023, du jamais vu depuis des décennies. Il y a un peu plus d'une semaine, une tentative de coup d'État a été déjouée en Guinée-Bissau. L'opposition dénonce aujourd'hui une mise en scène pour maintenir le président au pouvoir, explique le Times. Selon le quotidien, l'instabilité de la région inquiète, puisque des groupes djihadistes deviennent de plus en plus influents au Sahel et se dirigeraient vers les pays côtiers comme le Bénin. Mais s'il n'a pas été destitué hier, le président béninois est contesté. Élu depuis 2016, Patrice Talon est surnommé le roi du coton pour avoir relancé le développement économique du pays. Il doit quitter le pouvoir après les élections prévues pour avril prochain, explique la BBC. Talon a promis de ne pas aller au-delà de ses deux mandats, la limite autorisée par le Bénin. Son ministre des Finances est censé lui succéder, une hypothèse qui ne convainc pas, notamment parce que le principal candidat d'opposition n'est pas autorisé à se présenter, rapporte le New York Times. L'opposition dénonce un virage autoritaire après un vote au Parlement le mois dernier, qui vise à prolonger le mandat présidentiel de 5 à 7 ans et à créer un nouvel organe législatif qui pourrait inclure Patrice Talon, de quoi lui permettre de garder du pouvoir et de l'influence sur les institutions, poursuit le Times, qui explique que les soldats impliqués dans le coup d'État auraient mal évalué le climat politique au Bénin, persuadés que la population les soutiendrait.
Et de son côté, pour conclure, Estelle Camerer, la Palestine aspire à trouver quelqu'un qui la représente vraiment et un nom ressort.
Celui de Marwan Barghouti, une tribune publiée la semaine dernière signée par plus de 200 personnalités du monde de la culture, appelle à sa libération, rapporte le Guardian. De son côté, le Washington Post lui réserve un long papier publié hier. Le quotidien le décrit comme le prisonnier palestinien le plus célèbre d'Israël, mais aussi comme le principal candidat à une potentielle gouvernance de la Palestine. Marwan Barghouti est derrière les barreaux depuis 24 ans. Il purge 5 peines de prison à perpétuité pour son rôle présumé dans des attaques contre des civils entre 2001 et 2002, explique le Washington Post. Dans une vidéo publiée cet été sur le compte du ministre de la Sécurité nationale israélien, Itamar Ben-Gvir, la seule publiée en 14 ans, Marwan Barghouti se fait réprimander par le ministre. Quiconque s'en prend à Israël assassine nos enfants, nous l'éliminerons, vous devez le savoir. Partisan d'une solution à deux États et soutien de la résistance armée à l'occupation israélienne des territoires palestiniens, Barghouti a été remarqué par Donald Trump, assure le Washington Post. Le président américain a évoqué la possibilité de le libérer, mais Israël a posé son veto. Ils estiment qu'il a du sang sur les mains, mais ils sont aussi conscients qu'il représente une figure potentiellement rassembleuse, explique un chercheur interrogé par le quotidien américain. Pour le Post, la place de Marwan Barghouti sur la scène politique palestinienne se pose de plus en plus, en particulier face au président de l'autorité palestinienne. À 90 ans, le très impopulaire Mahmoud Abbas n'a toujours pas de plan de succession.
Merci Estelle Camerer.